Merci. Non, merci d'être là. On est tous là. Il y a même Anne.
Oui.
Bonjour Anne.
Bonjour.
Anne Cangelosi.
Oui.
Comment on prononce?
C'est ça, c'est bien.
En Sicile, comme ça, là. Ouais, Cangelosi.
Ouais. Ça met un peu de soleil.
Alors Anne, l'année dernière, c'était un carton.
Ah ouais, improbable.
Ouais,
improbable.
Parce qu'avec un titre comme ça, on s'est dit, elle va se ramasser.
Oui, le radeau c'est, de ça, c'est ça, complètement. Et en fait, pas du tout, ça n'a pas du tout été un naufrage.
Ben non, c'est impressionnant.
Ça a été vraiment, on a refusé du monde, c'était complet, vraiment, dès les premiers jours du festival. Et moi, j'ai été, et Alexandre aussi, de Limoges, qui est l'auteur et le metteur en scène de la pièce, on a été très surpris par l'accueil du public. Et on s'est rendu compte qu'il y a un vrai public. Ce genre de spectacle.
Oui,
c'est très
particulier. On a vu, il y a d'autres spectacles hein, comme ça.
Oui, oui. Bah, par exemple, le plus connu, c'est Hector Obalk, qui fait un spectacle
sur... l'année dernière, je crois.
Oui, il était là l'année dernière. Il était au Rouge-Gorge.
Bien.
Et vous
serez cette année à l'Espace Roseau.
Voilà, exactement.
Teinturier, faut pas
confondre. Donc, on a pris une plus grande salle aussi. Donc, là, c'est 90 places.
Et 90 places, 60 minutes d'humour, d'art...
Et d'histoire. Exactement.
Il y a l'histoire de l'art. Donc, on part du tableau Le Radeau de la Méduse.
Oui, en fait, on part du tableau. C'est un spectacle qui est en trois parties. On part du tableau de Le Radeau de la Méduse. Donc, c'est le décor, en fait. On a le tableau sur une grande bâche. Parce que le tableau est issu d'un vrai fait divers qui a eu lieu donc, en juin 1816. La Méduse, qui était une frégate où il y avait 400 personnes dessus, s'est échouée. Et il y a 147 personnes qui se sont retrouvées...
sur ce petit bout de bois.
Sur ce radeau qui faisait 20 mètres sur 7, donc 140 mètres carrés. Donc ils étaient vraiment debout comme des sardines. Et surtout, ils avaient de l'eau jusqu'aux hanches hein, quand même. Hein. Faut se remettre dans le contexte. Et première nuit, tempête. Donc il y en a déjà une vingtaine qui sont morts. Deuxième nuit, mutinerie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le radeau, il y avait une vingtaine de gradés. Et des soldats. Et il se trouve que les gradés, c'était des royalistes, puisque Louis XVIII vient de monter sur le trône en 1816, et les soldats, c'est des bonapartistes. Donc il y a eu une mutinerie qui a été un peu organisée, et troisième jour, il ne restait plus que 60 personnes sur le radeau.
Quand même, sur un bout de bois de 20 mètres carrés, on se débrouille.
140 mètres carrés,
20 mètres sur 7. On se débrouille sur la guerre.
C'est exactement ça. Et au bout de deux jours, quand ils se sont retrouvés sur le radeau, ils n'avaient que du vin et de l'eau. Ils avaient 5 tonneaux de vin et 2 tonneaux d'eau, pas de nourriture. Donc au bout de 3 jours, ils ont commencé à se manger les uns les autres, enfin les cadavres en tout cas. Donc c'est ça qui a été à l'origine aussi du d'énormes scandales historiques et politiques.
Du buzz de l'époque.
Du buzz de l'époque, exactement. Et donc Géricault, qui lui était en Italie et est tombé en pamoison devant les fresques de Michel-Ange, quand il est rentré en France en 1817, il a dit « Moi, je veux devenir le Michel-Ange français ». Il cherchait un sujet... Et il tombe là-dessus, parce que quand il est rentré, ça tournait en boucle sur BFM TV, on va dire, de l'époque. Et il s'est dit, ça, c'est le sujet qui va me faire un million de vues sur YouTube.
Il n'y avait pas YouTube, mais on avait quand même du buzz. C'était quoi, 1800 quelque chose ?
Il s'est enfermé dans son atelier pendant un an et demi. Il a mis un an et demi pour faire ce tableau. Il est devenu fou, d'ailleurs, à la fin. Et il a fait ce tableau qui fait 35 mètres carrés, qui fait 5 mètres sur 7.
D'accord.
Qui est exposé au Louvre.
Et qui résonne avec l'époque d'aujourd'hui,
Je trouve. C'est-à-dire que...
On est pas mal sur ce truc, là, nous. Hein.
C'est-à-dire que ce fait divers, il a eu lieu au début 19e. Et c'est pas comme si, en 2024, il y avait encore des gens qui mouraient en pleine mer sur des radeaux.
Par hasard, oui, bien sûr.
Voilà.
Sur des barques de fortune. Et en même temps, toute une société, une civilisation qui part à la dérive aussi.
Complètement. Mais justement, ça a été aussi le scandale, parce que
il y a les royalistes,
exactement, il y a les royalistes, les bonapartistes, et puis surtout, moi, ce que j'ai découvert à travers ce spectacle, c'est que Géricault était un peintre extrêmement engagé. Et en fait, le spectacle, il est construit comme ça en trois parties. C'est-à-dire, la première partie, on est sur le tableau, c'est sur l'artistique, le scandale artistique, on va dire. La deuxième partie, c'est la partie historique, donc sur le naufrage, ce qui s'est réellement passé. Et la troisième partie, c'est sur le côté politique et le côté engagé de Géricault. Et c'est vrai que quand il a exposé ce tableau, tout le monde a vu le naufrage de la France, en fait, à travers ce texte.
Et oui, c'est ce que ça...
Et donc, ce qui est fabuleux dans cette œuvre-là, alors j'imagine qu'il y en a d'autres, hein, mais dans celle-là en particulier, c'est que d'abord, le tableau et le fait divers sont complètement indissociables, et surtout, c'est à l'origine du plus gros scandale politique, artistique et historique du début du 19e siècle.
Bien. Et vous le foutez maintenant au Festival d'Avignon, voilà. Au milieu du 21e siècle,
c'est
pas
ça.
au début du 20e
non,
siècle.
Non, mais c'est, Rebecca. En fait, c'est passionnant. Mmh. Et je pense que, et alors, ce qui ne peut
pas vieillir.
Non, c'est complètement intemporel. Le tableau est intemporel. Et dans le côté engagé de Géricault, c'est qu'en fait, sur le radeau, il ne restait plus qu'un seul noir.
Aïe.
Parce que la traite des Noirs avait été abolie 3 ans plus tôt, mais l'esclavage était encore là, bien sûr. Donc, il n'y en avait qu'un seul. Et sur le tableau, en fait... Il y en a un qui est en haut avec son tissu, là, qui est en haut de cette pyramide, là, et qui est plus fort, au-dessus des Blancs, qui prend les commandes, qui est plus. On sent qu'il prend. Voilà, il est plus vaillant, etc. Et, et puis il y a d'autres Noirs aussi qui sont disséminés dans le tableau, et ça a fait un scandale. Personne à l'époque. Le tableau a été exposé au Salon de Paris en 1819, et à l'époque, personne n'a parlé de ce héros principal, en fait, qui est en haut de cette pyramide. Comme
ça
s'il n'existait
pas. Le noir, c'est pas une couleur, il paraît.
Et en fait,
en peinture.
Voilà. Et c'est, je trouve que c'est.
C'est dingue, ça parle beaucoup.
Oui, oui, c'est-à-dire que je trouve qu'Alexandre de Limoges, il a été vraiment touché par la grâce de. Enfin, ce spectacle, moi j'adore le jouer, vraiment. Et c'est vrai que quand il me l'a présenté, je lui ai dit, t'as rien de plus glamour que le radeau de la Méduse. Il m'a dit, lis, tu me diras après. Effectivement, j'ai lu. Là, je suis tombée dans le sujet, donc je me suis renseignée, j'ai lu des bouquins d'historiens, etc., j'ai vu des reportages et tout ça. Et c'est passionnant. Et en fait, comme vraiment j'adore le jouer, ce spectacle, et j'essaye de transmettre ça au public. Et c'est vrai que, bon, bah, ils me le rendent bien parce qu'ils sont là. Et à la fin, j'ai plein de... L'année dernière, par exemple, en sortant, les gens me disaient « Mais vous êtes prof d'histoire ?» Bah, je dis « Non, je suis comédienne. » Oh là là, si on avait eu des profs d'histoire comme ça, voilà. Et c'est vraiment...
Et Alexandre de Limoges,
oui.
Son rapport avec l'histoire de l'art, justement.
Ah bah, Alexandre, en fait, de Limoges, il joue...
L'auteur.
C'est l'auteur et le metteur en scène du Radeau de la Méduse. Et il a créé donc, un spectacle qui est connu sur Avignon, puisque ça fait 5 ans ou 6 ans qu'il le joue. C'est Gustave Eiffel, Enfer et contre tous.
Ah oui, bien sûr.
Et donc là, il jouera à l'Espace Rosotin.
C'est un gros succès aussi.
Oui, 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 justement. Ah ouais, Donc, il joue à 13h, à l'espace, juste après moi. Moi, je suis à 11h30 à l'Espace Rosotin-Turier. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'écriture d'Alexandre, c'est qu'il part par la petite histoire pour raconter la grande histoire. Donc, en fait, pour Eiffel, il va raconter un jour précis où il y a la grève des charpentiers italiens, etc., etc. Et il va nous raconter la fin du 19e. Là, pour le coup, c'est la fin du 19e avec la révolution industrielle, etc.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est la même période, en fait.
Moi, je suis début 19e,
ah, oui,
le radeau, et lui, c'est la
d'accord.
fin du 19e. Oui, c'est ça, du 19e. Et en fait, pour le radeau, le petit bout de la lorgnette, ça va être cette conférencière qui est un personnage un peu déjanté, un peu comme ça, un peu folle, qui est passionnée par ce tableau et qui, en même temps, le déteste, parce qu'elle y voit aussi, elle a son histoire personnelle, elle est en pleine... instance de divorce et en fait elle voit vie sur
naufrage.
Ce radeau, elle voit ce naufrage de sa vie et en même temps elle va passer toute la conférence et ça j'adore à montrer tous les défauts du tableau, les problèmes de proportion, les incohérences. Par exemple, il y a un personnage, quand on le regarde, on se dit, mais la jambe, en fait, elle est beaucoup trop longue par rapport au personnage. Donc, par exemple, elle dit, il y a une anecdote qui est vraie, hein, d'ailleurs, où, par exemple, Géricault n'aimait pas parce qu'il ne savait pas peindre les pieds.
Ah.
Et donc, si on regarde les naufragés, ils ont tous des chaussettes.
Ah oui. Vous voyez, c'est le genre d'anecdote.
Et donc, par exemple, elle va dire, bon, alors, par exemple, Géricault n'aimait pas peindre les pieds. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ses pieds? Ben voilà, il leur a mis des chaussettes. Pas vu, pas pris. Voilà. Et c'est que des trucs comme ça. Et c'est ça qui fait aussi le côté...
C'est important parce que c'est très documenté.
C'est très documenté.
Pour savoir ça, c'est important.
Tout ce que je dis est vrai. Ouais. Tout ce qu'on a dit est vrai.
Oui, c'est important de le dire.
Ah oui, tout est vrai. Tout est vrai.
L'humour là-dedans.
L'humour, en fait, elle vient de ce personnage, voilà, de cette conférencière qui est, qui est un petit peu pète sec, qui va commencer le spectacle. Alors, je ne vais pas tout spoiler, mais par exemple, elle dit, moi, on va commencer parce que j'ai autre chose à faire que vulgariser l'art dans une salle minuscule. Moi, j'ai une carrière qui mérite mieux que ça. Enfin, ça commence comme ça, donc les gens se disent, qui c'est celle-là,
etc. Qu'est-ce qu'elle veut, elle ?
Et puis après, voilà, elle va... Alors, c'est interactif, hein, donc elle va poser des questions au public, voilà, sur les courants picturaux, par exemple. Donc ça, c'est dans la première partie. Mmh. Pour situer, en fait, le romantisme dans le 19e siècle. Et donc, évidemment, elle va être un peu... elle va dire, bon, alors le niveau de la salle est catastrophique.
Bah
bon,
oui.
Bon, il faut que je vous raconte, alors c'est pas possible. Bon. Et ça va être tout comme ça. Et en même temps, elle va passer, je vous dis, son temps à identifier toutes les petites erreurs sur le tableau.
Qu'elle déteste, mais qu'elle doit commenter quand même.
Mais en même temps, voilà. En fait, elle est fascinée par ce tableau. Mmh. Et c'est vrai qu'il est fascinant. Et qu'on le regarde, une fois que... Et ça, c'est un des plus beaux compliments qu'on m'a fait.
Mmh.
Pardon. C'est que les gens, en sortant, m'ont dit, mais... Ça me donne envie d'aller le revoir.
Ah oui.
Parce que du coup, j'ai un éclairage différent et on ne va pas le voir de la même
puis,
façon.
Puis il y a des tas de détails, des choses, c'est comme les De Vinci.
Et ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que c'est un tableau qui est amené à disparaître. On ne peut pas le restaurer parce que Géricault a utilisé un vernis qui s'appelle le bitume de Judée, qui est à base de goudron. Et donc, le tableau est en train de noircir.
Zut, pardon.
Ah oui. Donc il faut aller le voir au Louvre.
Ah oui.
Ah oui, oui.
Et on peut pas le sauver.
Non.
Waouh. Ah oui, ça c'est aussi un naufrage quelque part.
Non mais c'est fou quand même. Ah
oui, c'est dingue.
Et moi je suis allée plusieurs fois évidemment quand j'ai appris le texte, enfin quand je me suis documentée, je suis allée plein de fois le voir au Louvre et en fait on a été obligé d'éclaircir l'image.
Ah oui.
Pour raconter tous les parce que à un moment donné dans la partie artistique dans la première partie je détaille tous les personnages parce qu'en fait il y a des vrais survivants du radeau qui ont posé.
Ah oui, carrément.
Oui, parce qu'en fait, oui, c'est
ah
ce
oui,
que
c'est
ce
presque
que je
une
n'ai
photo
pas
de
dit.
Presse en fait.
Oui, oui, complètement.
Géricault.
Ouais. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait ils étaient 147 au départ et quand on les a récupérés après 13 jours. Ils étaient 15.
15, oui,
et il y en a 5 qui sont morts dans les jours qui suivent parce qu'ils étaient complètement déshydratés, enfin tout ce que vous voulez. Donc il y en a 10 en vrai qui sont...
C'est l'inverse du CID, hein. Ils sont partis 500, mais
ouais, c'est ça.
Ils sont arrivés que
15
à la fois.
Et en fait, donc Géricault a contacté deux notamment qui ont écrit un livre, donc Alexandre Coréard et Henri Savigny, qui ont écrit... En fait, au départ, ils ont écrit un rapport pour le ministère de la Marine pour dire ce qui s'était passé au niveau du naufrage et des 13 jours de survie sur le radeau. Et en fait, il y a un ministre anti-monarchiste qui a pris ce rapport et qui l'a fait fuiter dans la presse. D'où l'énorme scandale.
D'accord.
Et donc, quand Géricault...
C'est les mêmes méthodes qu'aujourd'hui, quand même.
Mais c'est pareil, c'est pour ça que je dis, c'est complètement
c'est
d'actualité.
C'est intéressant. Mmh.
Et du coup, quand Géricault est rentré en France, il a contacté Coréard et Savigny. Et donc, ils posent.
Ils sont
sur le tableau. Voilà.
Le tableau qu'on découvre en grand derrière vous,
oui,
sur la scène.
Oui,
hein,
oui.
Du coup,
exactement.
On peut bien le voir.
C'est le seul décor, en fait.
Mmh. Bah oui, bah, de toute façon, c'est lui...
Oui. Bah, c'est la star, en fait. Voilà. Hein, c'est ça, c'est la star,
c'est la star
du spectacle.
Spectacle. Anne Cangelosi,
oui,
essaye tant bien que mal de le présenter.
Oui.
Mais elle nous fait beaucoup rire.
Oui.
Le public se lève, parfois.
Oui. Oui, oui, c'est
hallucinant.
Vrai.
C'est,
oui,
vrai.
Oui.
C'est dingue, hein.
Oui, oui. C'est vrai. Non, c'est... Voilà. Moi, je suis très heureuse et très... Enfin, oui, très heureuse que ça soit accueilli comme ça par le public. Il y a une espèce de ferveur. Enfin, en tout cas, l'année dernière, on a senti ça. Il y a eu une espèce de ferveur comme ça autour de ce spectacle. C'était dingue.
Eh oui, mais c'est un tube, le radeau de la Méduse. Que voulez-vous ? Donc, on vous retrouve à 11h31. Ce sera pendant le Festival d'Avignon, évidemment. Le OFF 2024, du 29 juin au 21 juillet.
Oui.
Je ne sais plus de relâche.
Mardi. Mais c'est important de dire que ça commence le 29 juin. Hein.
29 juin, j'ai bien vu.
Voilà.
Voilà.
Non, c'est parce
juin.
Que comme
ah oui,
y en a qui commencent
le 3
juillet et que officiellement ça commence le 3 juillet.
Ouais, mais avant le 3 juillet, il y a un petit week-end là.
Oui, oui,
il faut
oui.
Se le faire.
On va se le faire, ouais.
Voilà. À 11h30, à l'Espace Rose au Teinturier avec Anne Cangelosi, un texte de Alexandre de Limoges qu'on salue parce que franchement, c'est un très très beau boulot. Hein.
Ah oui. Vraiment.
C'est de leur
non,
faire
mais ça
de
vaut le coup de
venir. Et donc, on vous retrouve donc à 11h30 tous les jours. 60 minutes d'humour, d'art et d'histoire. Le radeau de la Méduse.
Merci beaucoup.
Vous ferez pas un naufrage, hein, j'espère.
Non.
À bientôt. Anne.
À bientôt. Merci beaucoup.